Et je passe tout de suite la parole à Claude Chaudet.
Oui, je vais y revenir à ce propos-là dans quelques minutes. Merci. Merci à M. Sicard de ses propos qui me touchent tout particulièrement au regard de ce que j'ai décidé ce matin. J'avais préparé un texte sur la question de la prévention chez Dolto, c'était annoncé. C'était un texte bien documenté et relativement savant qui reprenait pour en développer quelques points un certain nombre de choses qu'on a déjà travaillées ailleurs. Plusieurs raisons m'ont conduit à modifier ce projet et je vais vous les annoncer peut-être pour excuser le côté un petit peu désordonné de mon propos que j'ai terminé tout à l'heure et modifié hier soir. Alors, les trois raisons pour lesquelles j'ai renoncé à ce projet, c'est d'abord l'actualité sociale et politique de ces derniers mois, non seulement dans notre pays, mais également partout où la crise frappe, de plein fouet les gens, en particulier les plus fragiles, et à commencer par les enfants. Le second point est un petit peu plus personnel, il est lié à ma lecture, ou plutôt ma relecture, de certains des textes que vous trouverez rassemblés dans l'ouvrage à paraître incessamment chez Gallimard, sous le titre « Une psychanalyse dans la cité, l'aventure de la maison verte ». J'ai en effet eu la chance et l'honneur, j'ai pas peur d'utiliser ce mot un peu désuet aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'assister mon amie Marie-Hélène Malandrin dans la rédaction de l'introduction de cet ouvrage, qui est une introduction qui est aussi un appareil qui va rendre plus facile la lecture de cette recension de tous les textes que Françoise a pu consacrer à la Maison Verte. Ils sont nombreux, textes, articles, échanges de correspondances, et qui sont tout à fait passionnants, en particulier pour tous ceux qui s'intéressent à cette expérience pour le moins complexe. J'y reviendrai. Même si nous n'avons disposé que de très peu de temps pour rédiger ce travail, que nous considérons comme une ébauche d'un travail beaucoup plus complet et plus théorique qui va paraître d'ici peut-être 2 ans, cette expérience avec Marie-Hélène m'a beaucoup influencé dans cette décision, justement, de parler de la situation actuelle. Et la troisième raison, elle est liée à tout ce qui s'est déjà dit ici, durant ces journées, dans les couloirs, en conversant avec tous mes amis et d'autres encore, et puis plus particulièrement à ce qui s'est dit à la tribune, et encore plus particulièrement aux citations qu'Arnaud nous a rappelé, à commencer par celle sur la dégénérescence matérialiste qu'il a donnée tout à l'heure vers 10h30, et où effectivement Françoise Dolto faisait part de ses inquiétudes, et M. Sicard a rappelé combien elles étaient fondées. En matière d'actualité de sa pensée et de ses craintes, je n'en connais pas de plus pertinente. Merci Arnaud de nous les avoir rappelées tout à l'heure. Alors, comme si nous l'avons entendu, nombre d'institutions se sont littéralement métamorphosées et font désormais un travail remarquable avec les enfants et les adolescents qui leur sont confiés. Et si l'impact des travaux de Dolto est également indéniable dans maintes familles dont elle a radicalement transformé l'ambiance, il en est d'autres, en effet, où des enfants sont en souffrance. Trop souvent, ils défraient la chronique et conduisent de plus en plus de gens, y compris parmi des pédiatres bien connus de nos services, à en appeler à toujours plus de répression. C'est ainsi que depuis quelques années, la file active des services de pédopsychiatrie et celle de nos consultations s'allonge. Le nombre de ceux qui sont pris en charge par des structures d'ailleurs menacées de disparition comme les RAZ, eh bien, cette file active, le nombre de ceux qui font appel à ces structures augmente constamment. Je pourrais poursuivre avec des chiffres relatifs à la délinquance des mineurs, à celle des adolescents, des jeunes adolescents, à la toxicomanie, à l'incarcération en prison de ces mêmes mineurs. Je pourrais même évoquer des chiffres relatifs au suicide. Je n'insisterai pas, je dispose d'arguments bien plus convaincants de nos jours pour parler de ce mal-être. C'est bien évidemment la croissance exponentielle du chiffre d'affaires et donc des bénéfices des actionnaires qui sont tirés des laboratoires pharmaceutiques qui produisent des thymorégulateurs et autres amphétamines telles que la ritaline prescrites dès le plus jeune âge aux enfants prétendument hyperactifs. Ça, je pense que ce sont des chiffres qui pourront vous convaincre. Mais Dolto nous rappelle que les psychanalystes ne sont pas devins et que rien n'indique que les choses s'arrangeront dans l'avenir. Ceci en dépit des chiens à qui revient à présent le soin de mettre en œuvre dans les écoles de la République la théorie dite de la bonne insécurité. Je vous renvoie aux propos de Chantal Firmigier-Michel, procureur, dans Le Monde du 5-12. Donc, des chiens pour la bonne insécurité. Rien n'indique non plus à propos de divination que les enfants iront nécessairement moins bien demain, même si, grâce à la réforme de l'ordonnance de 45, nous verrons bientôt que derrière tous ces enfants prétendument en souffrance et pris en charge par la PJJ, se cachent en vérité seulement de dangereux criminels, probablement congénitaux, si je m'en réfère à des chiffres comme 40% annoncés hier de troubles amenés au pédiatre et supposés héréditaires. Je suppose donc que la criminalité en fera partie. Quant aux brillantes perspectives qu'ouvre le discours du président de la République à propos de la nouvelle loi concernant la psychiatrie, j'ai là encore quelques doutes quant au fait que celle-ci pourra être d'un quelconque secours pour ces jeunes en souffrance qui auraient affaire à elle. Même si le psychanalyste n'est pas devin, je prends cependant le risque de sortir de ma fonction pour avancer quand même que toutes ces nouvelles mesures auront certainement une véritable portée, mais ça sera essentiellement sur les statistiques des ministères concernés et sur les performances des forces de l'ordre. Pour le reste, effectivement, ces lendemains qui ne chantent probablement pas nous contraignent à réfléchir. À réfléchir et à réfléchir à partir de la situation actuelle, comme je l'ai dit, et où nous devons bien reconnaître que malgré tous ces efforts et les efforts que nous avons déployés à sa suite pour reprendre, si on peut dire, son enseignement, eh bien, nous ne sommes pas parvenus à endiguer ce qui conduit à ce mal-être profond, source de ces nouvelles souffrances dont le social est affecté en profondeur et dans toutes ses couches. Nous ne sommes pas arrivés à endiguer ce mal-être. Je dois moi aussi à Catherine Dolto, comme Jean-Pierre Winter, la citation où Dolto relevait dès 1968, je la cite, que la non-intervention éducative des parents au nom d'éventuels traumatismes qu'ils risqueraient de causer à leur enfant est un des problèmes d'aujourd'hui. Fin de citation. Il n'est pas inintéressant de constater qu'on persiste pourtant à vouloir imputer à Dolto, à elle, ce laxisme, comme s'il ne pouvait être question de reconnaître que ce qui arrive aux familles et aux enfants dans tout l'Occident dépasse largement la sphère culturelle et la zone d'influence qui fut la sienne. D'aucuns procèdent avec elle comme d'autres le font avec mai 68. Parfois ce sont les mêmes. Mai 68, que l'autorité qui préside à l'État français a voulu, dixit le philosophe Jean-Luc Nancy que je cite, désigné comme l'origine d'un relâchement et d'un relativisme moral dont serait victime et la vertu politique et celle d'un capitalisme supposé doué de scrupules. Fin de citation. Tout se passe, en fait, comme s'il fallait absolument trouver un bouc émissaire pour ne pas avoir à s'interroger sur les causes profondes de ce malaise. Tout se passe comme s'il était impossible de reconnaître que c'est moins les idées des psychanalystes ou les envolées lyriques des libertaires de mai 68 que leur formidable récupération marchande qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Tout se passe comme si on voulait, comme si on ne voulait pas en savoir davantage quant à ce qui généralise la dérégulation des rapports intergénérationnels et conduit à la crise de légitimité à laquelle nous assistons. Des psychanalystes, l'un d'entre eux nous a parlé hier après-midi, Roland Gori, des philosophes, Dufour, Ziegler, d'autres encore, ont montré comment cette crise de légitimité sans précédent résulte de la conjonction désaveuglement du discours de la science, des dérives du démocratisme et, last but not least, du développement débridé du libéralisme économique, désormais totalement libéré de toutes les contraintes éthiques. Les derniers mois en donnent là encore une preuve éclatante. Je ne reviendrai pas sur leurs démonstrations pour me contenter de rappeler que c'est sous l'impulsion de ces trois forces convergentes constitutives de la postmodernité que toute notion de limite tend à être abolie aujourd'hui, et que disparaît par là même à la fois la dimension de négativité que celle-ci avait la charge de faire entendre, mais également la légitimité de ceux qui ont à en garantir l'efficace. Une négativité indispensable à la construction de la subjectivité comme du lien social. Une négativité qui, mise à mal, n'a plus la possibilité de se faire entendre pour dire que tout n'est pas possible, que tout n'est pas bon pour l'homme et son petit. Du seul fait que certaines choses sont techniquement possibles, tout un chacun se sent désormais fondé à les réclamer. Puisque la science le peut, j'y ai droit, et la conviction au fondement de nombre de demandes, entre autres adressées aux biologistes et obstétriciens, spécialistes de procréation acrobatique organisée et réalisée médicalement. Il en va de même pour tous ces produits conçus par la recherche pharmaceutique et susceptibles de vous permettre d'exploser vos performances, que ce soit au lit ou à bicyclette, ou tout simplement vos jouissances, comme vous le répètent à longueur d'onde les publicités. Par l'entremise de la télé, le marché s'est en effet immiscé dans l'intimité des familles et des cerveaux. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de TF1, Patrick Lelay, lorsqu'il explique dans l'hebdo Télérama du 8-9-2004 que pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. C'est-à-dire que nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Vous vous souvenez peut-être que pour être sûr d'être bien compris, Lelay avait ajouté « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est le temps de cerveau disponible. C'est du temps de cerveau disponible. » Fin de citation. Voilà comment, avec une certaine maestria, le marché a désormais totalement recyclé et même considérablement amplifié un certain nombre de revendications des étudiants de mai 68, mais aussi de certains psychanalystes. Voilà comment il a su indiquer et même imposer les chemins conduisant à la réalisation de certains de ses désirs, comment il participe dans la foulée au démantèlement de ce qui pouvait en assurer la régulation, et comment il a canalisé vers les caisses de ses hypermarchés et autres centres commerciaux, désormais promus au rang de lieu de vie, des sujets qui ne sont plus considérés que comme des consommateurs. C'est donc dans un social ainsi paramétré que la question de la subjectivité et de sa construction se pose. Et c'est dans ce climat que les parents et les éducateurs sont amenés à exercer leurs fonctions. Autant dire qu'à l'heure du don des castrations symboligènes ou de la transmission des interdits structurants, l'enfant a déjà dans les oreilles et les yeux toutes sortes de discours qui font d'autant plus fortement référence pour lui qu'ils sont ceux partagés par la majorité de ceux qu'il côtoie. On lui a enseigné que tout est possible, ils lui ont montré qu'il y a droit parce qu'il le vaut bien. Vous vous souvenez de cette campagne diffusée il y a 2 ou 3 ans sur un poste périphérique où une grande banque qui soutenait le lancement du film Arthur et les Minimoys mettait en scène un père qui annonce à son fils qu'il cherche de l'argent au District Bank pour acheter au cinéma les pop-corns qui le feront taire. Sous couvert d'un humour gentiment moqueur, nous comprenions que ce n'est qu'en lui remplissant la bouche de sucreries, c'est-à-dire en passant par le pulsionnel le plus archaïque, que ce père pouvait obtenir que son fils la boucle durant le film. Renonçant à exercer sa fonction parentale et à faire usage de sa propre parole vectrice d'un interdit éducatif susceptible de permettre à l'enfant de comprendre qu'il dérange ses voisins quand il parle durant la séance de cinéma, ce papa, bien de notre temps, n'avait d'autre recours que l'incitation à la régression. Sans doute était-ce aussi pour lui un moyen de se faire l'économie de la castration qu'il s'infligerait à lui-même en exerçant son autorité. Comme on le voit ici, dans bien des cas, les parents de ces enfants en difficulté, trop soucieux de s'économiser les conflits inhérents à tout processus éducatif, sont en effet amenés à inventer des stratégies, souvent complexes et parfois aussi stupides, voire même perverses, pour échapper à ces confrontations qui leur imposent de se positionner et d'assumer leurs fonctions. Ils usent de ces stratégies d'évitement, comme notre société le fait à plus grande échelle, ceci jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, ils craquent, bascule dans la violence et abandonne la partie. Nos consultations sont ainsi remplies par ces parents et ces enfants déboussolés et qui ne savent pas par quel bout prendre le problème qui est devenu la vie de famille et parfois la vie tout court, comme le montrent ces publicités de Hansaplast où l'argument de vente des préservatifs repose sur l'impossible exercice de la fonction parentale. On a 2 minutes, si vous voulez bien en passer une. Il n'y a pas de problème, tu en es top. Alors, attendez pour la seconde. Attendez pour la seconde. Vous allez me dire, et vous aurez raison, voilà quelque chose de fort caricatural et qui met de nouveau les maires en situation d'accusé. Cette mère qui permet tout et n'importe quoi et dont le oui que reçoit l'enfant se confond avec celui qu'elle crie dans les bras de son amant. Je vais vous en montrer une beaucoup plus banale qui renvoie d'ailleurs à la même chose, mais où ce sont les messieurs qui sont invités à se reconnaître. Vous voulez ? Ouais, on m'a reconnu. Je suis désolé, c'est pixelisé, mais ça vient d'une petite... Voilà. Merci à la technique. Cette publicité n'a pas été montrée en France. Cette publicité n'a pas été montrée en France pour des raisons de marketing et des raisons liées précisément à une forme d'autocensure relative aux objets dont il est question. Mais il est vrai que nous sommes dans un pays éclairé et avancé et que l'argument du VIH semble porter davantage. Il n'est bien évidemment pas besoin d'être grand clair pour comprendre que dans des sociétés organisées sur ces bases, et ces publicités sont effectivement une image que nous renvoie la société, il est bien évidemment qu'une société qui peut s'organiser à partir de un certain nombre de références comme celles que je viens de nommer, eh bien dans ces sociétés-là, les conditions de la Kulturarbeit ne sont pas vraiment réunies. Ces conditions sont d'autant moins réunies que le seul recours contre les débordements de ceux qui n'en peuvent plus d'envie, qui restent sur le carreau de la consommation, qui n'ont pas de rêve car l'avenir est totalement bouché pour eux, ou d'autres encore qui ne s'y retrouvent pas dans ce monde organisé par les seules valeurs mercantiles, eh bien que la seule réponse qui leur est proposée est la répression, et une répression généralement aveugle, avec son cortège de brutalité, d'iniquité et de rancœur. Là encore, je vous renvoie à vos journaux, de ces derniers jours et aussi de ces derniers mois, quand il s'agit de notre pays, des banlieues. Du moins, cette réponse est-elle la seule qui semble pouvoir être validée par le politique post-libéral. Alors, j'ai 3 minutes pour vous dire en clair que le travail que Dolto avait commencé n'est pas fini, que la cause des enfants n'est pas entendue. Et face à ce qui paraît comme un raz-de-marée néolibéral qui inonde une grande partie de la planète, nous nous devons de redoubler d'énergie pour poursuivre son travail. En véritable visionnaire qu'elle était, Dolto pressentait-elle ce qui nous attendait? C'est difficile de l'affirmer comme ça, mais c'est probablement une des explications de ce qui l'a amené à consacrer tant d'efforts et tant d'attention à la mise en œuvre d'une prévention digne de ce nom. Qu'il a connu à la fin de sa vie, épuisé et sous oxygène, mais ne renonçant pas à assister à la moindre des réunions épuisantes qui scandaient dans alors la vie de la Maison Verte, qui assistait à ça, c'est combien ce projet et ce qu'il représentait pour elle par rapport à l'avenir qui se dessinait lui tenait à cœur. Depuis fort longtemps déjà, elle veillait non seulement à informer et à former les professionnels, mais aussi à rendre attentifs les parents à ce que sont les enfants, ce qu'est leur subjectivité, la condition de leur développement et la condition de leur structuration. Je passe sur tout ce qu'elle savait des impasses avec lesquelles Freud s'était coltiné, pour simplement dire qu'effectivement, Dolto n'avait pour autant pas renoncé à faire partager aux parents et aux professionnels, malgré toutes les résistances qu'elle connaissait, elle n'avait pas résisté et continué à parier sur le fait de leur faire partager ce que la psychanalyse lui avait appris. Et si ses propos parvenaient à atteindre seulement quelques-uns de ceux qui la lisaient ou l'entendaient, si un chauffeur de poids lourd, comme elle nous l'avait relaté, si un chauffeur de poids lourd, trop ému pour poursuivre sa route, arrêtait en catastrophe son camion sur le bas-côté de la route, les larmes plein les yeux, parce que ses mots à elle, entendus à la radio, l'avaient atteint au plus profond, ou si une femme en train de repasser dans sa cuisine avait pu entendre que ce que Dolto disait la concernait, elle, en tant qu'ancienne maltraitante de sa propre fille, eh bien, c'était toujours ça de pris, disait-elle. L'expérience a montré combien de fruits cette option a pu porter. Et pour autant, Dolto ne pouvait se contenter de ce mode de transmission dont elle avait parfaitement conscience des limites et du fait qu'il reposait beaucoup trop sur sa seule personne et sur le transfert que son personnage provoquait. C'est sans doute pourquoi elle s'était consacrée avec tant d'attention à l'expérience de la Maison Verte, susceptible, elle, non seulement de lui survivre, mais également de permettre à d'autres praticiens expérimentés d'œuvrer dans ce lieu ou d'en ouvrir d'autres ailleurs, d'y participer à la formation des plus jeunes, d'y trouver de quoi proposer de nouvelles idées et d'étendre ce faisant l'offre préventive. C'était là sa priorité. En 1977, à l'heure où de grands noms de la pédopsychiatrie française mettaient au point leur liste et leur classement des indicateurs de risque. Vous savez, ce sont ces facteurs et indicateurs de risque qui servent aujourd'hui de référence à toutes ces grilles sur lesquelles reposent le dépistage et la surveillance des familles ou des enfants, ces grilles de dépistage qui font de nos jours beaucoup trop fonction de prévention. Eh bien, à l'heure où ces grands noms de la psychiatrie française s'occupaient de ça, dans les années 77, Dolto travaillait avec Marielle Malandrin, avec Pierre Benoît, avec Bernard Thys, avec Colette Longignon, et ensuite avec le reste de leur équipe, sur ce projet de la Maison Verte. C'était ça leur combat. Et je pense que c'est intéressant de mettre en regard que c'est dans la même année qu'effectivement certains textes fondamentaux de la prévention en psychiatrie traditionnelle ont été publiés, et le premier texte fondateur de la Maison Verte. Or, c'est bien du même combat qu'il s'agit pour nous aujourd'hui, et je vais en terminer avec ça. Oui, c'est du même combat qu'il s'agit pour nous aujourd'hui, à l'heure où la pensée comptable règne en maître absolu sur les institutions où nous avons essayé d'introduire quelque chose d'autre que ce qui y régnait. À l'heure où le sujet apparaît comme le cadet des soucis de ceux qui décident des politiques sanitaires et sociales de tant de pays, le combat de Dolto reste d'une formidable actualité. S'il a changé de forme et d'échelle, il ressemble furieusement à celui qu'elle avait commencé avec quelques rares autres, comme Jenny Aubry, durant la dernière guerre mondiale, dans les établissements qui recevaient des enfants. Ce combat, qu'elle avait continué avec ses trouvailles et ses inventions, doit se poursuivre à partir des nôtres, à partir de son enseignement et de nos trouvailles. Sans doute, y en aura-t-il pour décréter avec la plus grande objectivité, et comme c'était déjà le cas alors, que la lutte est par trop inégale, et qu'il convient de se replier prudemment dans nos cabinets douillés plutôt que de nous risquer sur ce terrain. Sans doute, y en aura-t-il également pour nous dire avec la meilleure conscience du monde que ce combat n'est pas le nôtre, ou encore qu'à ce jeu, les dés sont trop pipés. Des troisièmes encore s'innocenteront de leur neutralité bienveillante en empruntant à Dolto, pour solde de tout compte, l'inaltérable confiance qu'elle avait en le génie des enfants, et pour dire qu'il n'est pas nécessaire de tant s'inquiéter pour eux et qu'ils trouveront toujours les moyens de s'en sortir. Au terme de cette partie de notre rencontre consacrée aux nouvelles difficultés de vivre et au risque de vous paraître quelque peu grave, voire grandiloquent, je préfère quant à moi vous inviter à poursuivre ce combat pour la cause des enfants qui aujourd'hui plus que jamais se confond avec le combat qu'on pourrait appeler de la cause du sujet. Un combat que plus que jamais, l'actualité dont l'actualité témoigne, si je peux dire, de l'actualité de la pensée de Françoise. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup à Claude pour cette intervention. Il a bénéficié des 5 minutes offertes par Didier Sicard, donc la somme des exposés en temps est tout à fait bonne. Je voulais dire beaucoup plus sérieusement, il a bien raison de nous rappeler comment, en tant que psychanalyste, nous sommes désormais convoqués sur la scène sociale, à condition, mais ça c'est le thème de la matinée, que on y soit convoqué au nom de notre éthique et non pas d'autres projets. Et j'ai été sensible au fait, alors qu'on n'avait pas décidé, qu'il a terminé son exposé sur la question de la cause des enfants, la cause du sujet, la cause de la psychanalyse, de la même manière, au fond, que je l'avais naturellement ouvert, ce débat, ce matin.